Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce que le pasteur nous a enseigné? On a vu qu'un disciple, parce qu'on dit ici, on dit disciple, disciple, mais disciple, c'est quoi? Et le pasteur nous a enseigné, il y a 2 semaines, qu'un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans la poussière des pas de son maître. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ça donne toute une autre dimension dans le fait que je marche avec Dieu. Beaucoup de chrétiens marchent, mais ils ne sont pas dans les pas. Ils sont, wouhou, où est Jésus? Ils marchent leur propre chemin. Mais la Bible nous dit clairement que si tu es un disciple, ou plutôt parce que tu es un disciple, alors tu devrais marcher dans les pas de Jésus, c'est-à-dire dans les marchés de telle manière, si près de lui, que les pas qu'il fait t'affectent, j'ai envie de dire. Que là où il va, vous savez quand on marche près de quelqu'un, très près, vous savez quoi? On ira où il va. On entendra ce qu'il a à dire et on verra ce qu'il voit. Beaucoup de chrétiens ne voient pas, disent ne pas sentir Dieu là. Mon ami, si tu as accepté Jésus, alors simplement rapproche-toi de lui. Comment se rapproche-t-on de lui? Par les Écritures, en entendant, en disant « je vais m'approcher plus près de ce qu'il a à me dire aujourd'hui dans les Écritures ». Et vous savez, il n'y a pas à faire des efforts pour changer dans ces cas-là. Beaucoup de gens se battent avec leurs émotions, avec leur chair. Marchez juste dans les pas de Jésus. Et vous allez voir que ce que vous aviez l'habitude de regarder ne va plus tant vous affecter. Ce que vous aviez l'habitude d'entendre vous concernant, si vous mettez vos oreilles sur ce que Jésus a dit, ça va changer votre façon d'entendre et de penser. Et c'est ça, être un disciple. Une deuxième chose que le pasteur nous a appris, c'est que les croyants sont appelés chrétiens, par le monde, mais Dieu ne les appelle pas chrétiens, il les appelle disciples. Actes 11, 26, elle nous a montré ce verset pour nous expliquer. Et la Bible nous dit ainsi, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce verset nous montre que c'est un nom qui a été donné par le monde aux chrétiens. C'est un nom qui souligne le lien qu'une personne a avec Christ. C'est un nom qui parle de l'appartenance d'une personne à Christ. Et comment est-ce qu'on sait normalement que cette personne appartient à Christ? Comment ils ont su? Parce qu'ils ont vu qu'il parlait différemment. Ils ont vu qu'il pensait différemment. Au lieu de penser que Dieu était en colère après eux, ils ont dit non, Dieu veut te parler. Dieu veut que tu viennes dans sa présence. C'était un langage qui est différent. Et le monde d'Antioche a dit, ce sont des chrétiens. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dimanche dernier, c'est le fait que le pasteur souligne que ça, ce n'était pas le nom que Dieu a donné à ceux qui croiraient en lui. En Matthieu 28, 19, est-ce que ça vous dérange si on revient un petit peu sur... Matthieu 28, 19, il est dit quoi? Allez donc, faites de toutes les nations des... Il n'est pas dit « faites de toutes les nations des chrétiens ». C'est-à-dire « faites de toutes les nations des gens qui vont marcher près de Jésus ». Faites de toutes... Ça, c'est un nom. « Disciple » est un nom qui a été donné aux croyants, non seulement pour parler de leur appartenance à Christ, mais de la manière dont ils allaient vivre leur vie avec Christ, c'est-à-dire marcher près de lui. C'est un nom qui parle, quelqu'un est un disciple, c'est un nom qui parle d'une relation, d'une marche, d'une identification, d'une dépendance, d'une soumission. Et quand Dieu nous voit, il ne dit pas « oh c'est un chrétien », non, c'est un de mes disciples. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il sait ce que je dis, il entend ce que je dis, il voit ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'il marche près. Quand il vous a la pensée, il pense, c'est un disciple. Et vous savez, c'est la différence entre le nom chrétien que le monde nous a donné et le nom de Dieu, disciple, et pourrait être illustré ainsi. Imaginez que Mademoiselle Lebel a épousé Monsieur Lebeau. Elle s'appelle comment, Madame Le... Mademoiselle Lebel s'appelle désormais comment? Madame Lebeau. Mais voyez-vous, ce nom Madame ne fait que signaler à la société que Monsieur et Madame ont un lien entre eux. Mais voyez-vous, ce mot ne parle pas réellement du type de relation qu'ils ont, que Madame Lebeau a avec son mari. Pour vraiment décrire le type de relation que cette dame a avec son mari va l'appeler épouse. Et vous avez imaginé, je ne sais pas si c'est pour vous comme pour moi, quand je dis épouse, il y a tout un autre volet de la relation qui se présente. Non? Madame, c'est administrative. Administratif. L'épouse, ça a une place auprès de lui. L'épouse, c'est celle qui entend. L'épouse, c'est celle qui coopère. L'épouse, c'est celle qui participe. Vrai ou pas? Absolument. Et à vrai dire, c'est parce qu'elle est épouse, c'est parce qu'il l'a épousée, qu'elle l'a épousée, qu'elle porte désormais ce nom pour la société. Est-ce que vous voyez le parallèle avec chrétien et disciple? Donner ce nom à cette femme sans que cette femme soit réellement son épouse, ça n'a aucun sens, non? Carrément, merci Guy. De la même façon, mes amis, on est riche de la parole. L'Église de Christ est riche de la parole. De la même façon, le mot chrétien devrait signaler au monde qui nous entoure que ce croyant-là est un disciple de Christ. C'est aussi simple que ça. Si un chrétien n'est pas disciple, c'est-à-dire s'il ne marche pas près de son maître, dans les pas de son maître, alors vraiment, ce nom est vide de toute substance. C'est un mot qui, presque, c'est un mot qui devient un titre de propriété. Il est à Christ, mais il ne veut plus dire il est à Christ parce qu'il est avec Christ. Oh mes amis, disciples, il faut que l'on s'attribue le nom de disciple. Le nom de disciple signifie que Christ non seulement est mon sauveur, mais c'est mon Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que j'ai pris ses rêves, j'ai pris ses pensées, j'ai pris ses intérêts. Quand je vois ma génération, je ne le vois plus comme des pécheurs, je le vois comme quelqu'un que je veux réconcilier avec le Père. L'Église de Christ peut être dit, ne peut parler durement au monde parce qu'elle n'a pas marché assez près dans ses pas. Disciple signifie quoi? Et j'insiste, et c'est vrai que je vais parler de quelque chose qui est le disciple et la prière, mais je veux vraiment établir que disciple, si on est disciple, ça aura un impact dans notre façon de prier. Et c'est pour ça que j'insiste, parce que depuis que notre pasteur a commencé à parler du disciple, je me suis dit, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu ne pourrais pas marcher un petit peu plus près? Est-ce que tu ne pourrais pas tendre un peu plus l'oreille pour entendre vraiment ce que le Seigneur a à te dire, te concernant ou concernant les autres? C'est ça. Disciple signifie que Christ est à moi. Mais aussi que quoi? Que je suis à lui. Disciple signifie que quoi? Que Christ est non seulement mon accès vers le ciel, mais que Christ est mon chemin également, depuis que j'ai passé la porte. C'est terrible quand quelqu'un accepte Christ et qu'il reste sur le pas de la porte. Mes amis, on a une vie en Christ. Et cette vie, elle est riche. À vrai dire, elle est tellement riche que quand on marche avec Christ, on se trouve. Parce qu'on le trouve, on se trouve. Amen. Moi, écoutez, j'étais dans ma chambre, j'ai étudié, j'étais, oh, j'étais tout enthousiaste. Je me dis, Seigneur, c'est tellement simple. Il suffit, c'est pas à la force des mains, c'est pas à la force de bonnes œuvres, c'est pas à la force du bien ou du mal faire, c'est juste mon choix de marcher dans tes pas. C'est là que ça se place. C'est juste le choix que je vais faire de se suivre de près, de chérir ce que tu as à dire, de pratiquer ce que j'entends, de croire ce que j'ai compris de toi. Et honnêtement, il faut que les chrétiens se définissent eux-mêmes comme des disciples. Il faut que l'on arrête de dissocier le mot chrétien du mot disciple. Très souvent dans la tête des gens, c'est en deux étapes. On devient chrétien et puis après il y a ceux qui viennent disciples. Ah ah mes amis, Dieu quand il vous a vu, il dit « Oh, un disciple, Tristan t'es un disciple, Noé t'es un disciple, toi Jacqueline aussi t'es un disciple ». Il vous a vu et il vous a pas pris pour un chrétien, il vous a pris pour un disciple. Chacun d'entre nous est invité à cet endroit en Dieu. Et c'est génial. L'Église, à vrai dire, est faite de disciples qu'on appelle chrétiens. Si l'Église ne réalise pas, si chaque chrétien ne réalise pas que c'est un disciple de Christ, alors vous savez, les gens vont reconnaître Christ, mais ils garderont leur vie pour eux. Si on ne met pas en avant que je suis un disciple lorsque j'accepte Christ, eh bien, on se contentera d'un titre. Et honnêtement, l'Église de Christ ne reconnaîtra jamais la puissance, la passion et le feu qu'elle devrait connaître. Parce que, avez-vous remarqué que les actes des apôtres, c'était quoi? C'était les actes des disciples. Pourquoi est-ce que l'Église de Christ, et je crois que l'Église de Christ est en train de revenir à cette position-là, pourquoi est-ce que l'Église de Christ était tellement dans le feu? Parce qu'il y avait des disciples. Pourquoi les miracles ont eu lieu? Parce qu'il y avait des disciples. Ce n'était pas juste des gens qui avaient leur carte au ciel, c'était des gens qui avaient compris ce qui se passait dans le ciel. Quelle était leur position auprès du Père? Est-ce que ça va? Amen. Je suis passionnée de ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. L'évangile est une super bonne nouvelle, mes amis. Il n'y a rien de mortel dans l'évangile. Il n'y a rien qui comporte la mort dans l'évangile. Tout n'est que vie. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ pour moi. Un autre mot, alors vous vous demandez peut-être, mais elle va y venir ou elle ne va pas y venir au sujet de la prière? Ben oui, on y est. On y est, on va parler de la prière. Un autre mot qui très certainement appartient aux disciples et dont la définition du monde affecte à ce jour l'Église, c'est le mot « Amen ». C'est le mot prière. Et je me suis dit, tiens, voyons voir quelle est la définition que donne le monde, que donne la religion à la prière. Et quand j'ai lu, je me suis dit, waouh, ça ne m'étonne pas que les gens n'aiment pas prier, ou que c'est un effort, ou que c'est une œuvre de prier. Parce qu'écoutez bien la définition du dictionnaire, hein, je ne l'ai pas inventé, c'est dans le dictionnaire. Selon le dictionnaire, selon la définition que le monde donne, la prière, écoutez mes amis, est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. La prière est un ensemble de formules, en général codifiées, par lesquelles on s'adresse à Dieu. Mais on est loin, on est à des millions de kilomètres. On n'est pas sur la même planète. La définition de Dieu n'a rien à voir avec cette définition. Et si un chrétien expérimente ça, alors il n'a pas expérimenté Dieu. Alors il est volé. Tout comme les chrétiens se laissent voler leur identité s'ils se limitent à être un chrétien et non un disciple. Si la prière d'un chrétien c'est ça, alors il s'est fait voler ce que devrait être sa prière. Le monde dit que la prière est un acte rituel. En d'autres mots, on est en train de me dire que la prière n'est qu'un faire. Le monde me dit que la prière consiste à s'adresser à une divinité. Vous savez, les divinités, elles ne parlent pas. Les divinités, ce sont, la Bible nous dit, des morceaux de bois, des images. Une divinité n'a pas la vie. Donc devinez ce qui se passe. Si je prie une divinité, je suis le seul à parler. Il n'y a pas de dialogue. C'est un monologue. Et ensuite, le troisième point, c'était une prière, c'est un ensemble de formules. Et là, je me suis dit, ouh, je vais faire une syncope. Ce qui me dit que quoi? Le monde a réduit sa prière, la prière, à un acte intellectuel. Oh, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Dieu merci, le Seigneur a autre chose à dire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, de croyants, identifient cette prière, leur prière, à cette définition. Pourquoi est-ce que je peux affirmer ça? Ben regardez, on nous fait croire que prier Dieu, c'est déposer une bougie. Ah oui, on est dans le rituel, il n'y a pas de souci. Ce côté-là, la barrière, il est bien gardé. On fait croire aux gens que déposer une fleur, c'est adresser une prière à Dieu. On fait croire quoi? Que réciter une formule. Et on s'aide d'un petit chapelet pour être sûr de ne pas s'en tromper dans les calculs. Oui, on est bien dans l'exercice intellectuel. On dit que quoi? Que lire des intentions est une prière. Et vous dites, ah oui, mais nous, tu sais, on n'est pas trop, hein, parce que nous, on n'a pas des chapelets, on n'a pas de bougies. Non, mais j'ai envie de poser, pourquoi est-ce que tu ne t'approches pas de Dieu et que quand tu t'approches de Dieu, tu te sens comme un pauvre pécheur? Parce que la Bible ne parle pas qu'on est des pauvres pécheurs. La Bible, s'approcher de Dieu comme si on était encore pécheur, c'est s'approcher de quelqu'un qui nous est loin, de quelqu'un auprès de qui on n'est pas à ses côtés. Or, la Bible nous dit qu'on a été ressuscité avec Christ. Mes amis, être disciple, c'est juste génial. Parce que c'est énormément de privilèges, énormément de liberté. Et le monde a besoin d'entendre ce qu'un disciple, à quoi un disciple a accès. Ça va? Vous savez, même dans nos milieux charismatiques, beaucoup de gens parlent pendant leur prière et n'entendent jamais Dieu parler. Beaucoup ne savent même pas que Dieu peut parler. Et pourtant, partout dans les Écritures, on voit que Dieu a parlé à des hommes et des femmes. Comment ça se fait que de nos jours, certains d'entre nous ne savent pas que oui, il ne faut pas une onction spéciale pour entendre Dieu parler. Il ne faut pas un appel spécial. C'est le fait même que tu aies été racheté par Christ qui te donne cette capacité à entendre Dieu. Alors, pour un disciple, est-ce que la définition de la prière que donne le monde est bien la bonne? Non. On n'y est pas du tout, comme je vous disais. On est à des millions de kilomètres de ce que, en tant que disciple de Christ, on devrait expérimenter quand on va dans sa présence. Regardez avec moi Hébreux 10, 19, 22. Il y a un passage qui nous montre comment ce que devrait être la prière et comment un disciple devrait entrer dans la prière. Hébreux 10, 19. Il nous est dit quoi? Ainsi donc, frère, ainsi donc, disciple, nous aurons, au moyen du sang, une libre entrée. Est-ce qu'il est marqué « nous aurons » ? Nous avons. Est-ce que le mot « avons » c'est « aujourd'hui » ? Ça veut dire que, ainsi donc, vous frères, moi, j'ai à ce jour, aujourd'hui, pendant que je suis sur terre, je n'ai pas besoin d'attendre le ciel. J'ai un accès. Nous avons au moyen du sang, pas au moyen des bougies, pas au moyen de récitation, c'est le sang de l'agneau qui me permet d'avoir une entrée. Et j'ai aimé ce que dit ce verset, il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus, lisez avec moi, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire que si je me présente devant Dieu avec le sang de Jésus, la Bible me dit, tu peux entrer dans le sanctuaire, c'est quoi? La présence même de Dieu. Là où le Dieu se manifeste. Et ce passage s'adresse aux disciples, frères. Sache que tu as une entrée. Et c'est même pas, attendez, c'est même pas une entrée style je passe, ça va, je passe. Non, la Bible dit, elle est libre. Elle est libre, l'entrée. Tu aimes Jésus, tu as reconnu que Jésus est ton sauveur, alors rentre dans sa présence. Elle est libre, l'entrée. Vous voulez d'autres versions? Parce que je me suis amusée à chercher d'autres versions. Ayant donc, frère, par le sang de Jésus, quoi? Écoutez bien, la hardiesse pour entrer dans le sanctuaire. La hardiesse, comment ça se fait que beaucoup de chrétiens vont avec peur et tremblement devant la présence de Dieu. La Bible nous dit, sois hardi. Vous savez, quand Anna rentre dans la pièce pour voir son père, elle n'est pas, j'y vais pas, je serai acceptée. Non, elle court dans les bras de Marc. Pourquoi? Parce qu'elle sait, parce que c'est son enfant, elle a un libre accès à son père. Une autre version dit, ayant donc, frère, une pleine liberté. Je vous dis que l'évangile est une bonne nouvelle. Combien de gens ne vont pas dans la présence de Dieu sans aucune liberté? Or, la Bible dit, vas-y, approche Dieu en pleine liberté, avec hardiesse. Une autre version dit, ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang, c'est le sang de Jésus qui nous a permis d'avoir l'assurance d'un libre accès. Non mais c'est énorme, c'est énorme. Et très honnêtement, c'est une insulte de dire, oh, je ne sais pas si Dieu va me... Je ne sais pas. Trop de chrétiens abordent Dieu en pleurant. Trop de chrétiens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ne font qu'on pleurer comme un pauvre pécheur. La Bible nous dit, tu sais quoi? Vas-y, va dans sa présence, parce que l'accès est libre. Va avec hardiesse lui parler, parce que l'accès est libre. Dites-moi, ça change la donne dans la façon de par rapport à la définition du monde, non? Mais c'est pas fini. Verset 20, continuons. Est-ce que ça va? On voit que venir devant Dieu, c'est un accès. On vient de voir ça ensemble. C'est un accès qui nous est donné en pleine liberté, qui est libre, c'est-à-dire quoi? Mes amis, si c'est libre, on n'a pas à payer. Ça veut dire que ce ne sont pas mes bonnes actions ou mes mauvaises actions qui vont faire que je peux aller dans sa présence. C'est libre! T'as bien fait, pas bien fait, va dans la présence de ton Dieu. Va dans la présence de ton Dieu. Trop de gens, quand ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas bien fait, ils restent loin. Et la Bible dit, non, t'as pas à payer. Jésus, la Bible nous dit que c'est par le sang de Jésus qu'on peut entrer dans la présence même de Dieu. L'entrée, elle est libre. Ensuite, verset 20 continue en disant quoi ? Par la route nouvelle et vivante. On est loin des bougies, on est loin des intentions. Mais cette route, de quelle route il parle ? De quoi est-ce que ce verset parle ? Eh bien, tout simplement, psaume 84, 5 nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a des chemins tout tracés. C'est-à-dire que tu peux entrer dans la présence de Dieu avec liberté, avec assurance. Et comment tu vas rentrer ? Par cette route nouvelle. Pourquoi ? Par ce cœur, par ton cœur, tu contactes Dieu. Et cette route est nouvelle parce que ton cœur qui a été donné à Jésus est recréé. Et la Bible nous dit, par la route nouvelle et vivante, qu'il que Jésus a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La route est nouvelle, elle est vivante parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Et le jour où il s'est sacrifié, le jour où il est mort et ressuscité, il a dit, ça y est, tu peux recontacter ton Père Céleste en connectant ton cœur. Cherche dans ton cœur. Adresse-toi à partir de ton cœur. Est-ce que le cœur, c'est là ? Est-ce que le cœur, ce sont des formules ? Vous ne pouvez pas réagir ? Non ! Le cœur, c'est ce qui parle en nous. Le cœur, c'est ce qu'on est. Dieu veut qu'on s'adresse à lui à partir de notre cœur, pas à partir de formules. Et ensuite, verset 21, il nous dit, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus est établi. » Dans la maison du salut. Approchons-nous. Alors, vous allez vous approcher, mais quand vous aurez tout bien fait, quand vous aurez clean, hein, il faut que vous ayez allé clean. Hein. Non, vous avez noté qu'il n'y a aucune condition qui est mise sur les œuvres. On revient à nouveau au cœur. Il dit, approchons-nous. Avec un cœur sincère. Le grec dit avec un cœur qui est vrai, qui est véritable. Ça veut dire avec moi, je m'approche de Dieu tel que je suis. Arrêtons d'essayer d'être juste parfait, de prétendre d'être quelqu'un d'autre. La Bible nous dit, tu as un libre accès à cause de Jésus. Emprunte-le et emprunte-le avec juste une attitude, avec une transparence, avec quelque chose de, avec qui tu es, avec le véritable qui tu es, genre, tel que tu es, le package entier. Ah, moi je trouve que c'est une super nouvelle. On n'approche pas, mais la Bible nous dit ici que le cœur sincère, le cœur vrai, le cœur véritable, pas avec des formules, il veut notre cœur. Et il continue. Et dit dans la plénitude de la foi. Il y a une autre traduction qui dit dans une foi qui est inébranlable. Et la foi, on peut remplacer ce mot foi aussi par une confiance. C'est-à-dire, la Bible nous dit, approche, tu as l'entrée qui est libre, qui est ouverte, soir, dis vas-y tel que tu es. Ne mets pas de masque, ne mets pas de costume religieux. Avance avec ton cœur. Et, en pleine confiance. Vas-y en pleine confiance. Ensuite, il continue, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire quoi ? Sachant que tu n'es plus pécheur. Approche Dieu sans traîner derrière toi cette conscience du péché. C'est-à-dire que quand vous allez dans la présence de Dieu, des fois la conscience des péchés vient. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dire, Seigneur, tiens, je refuse. J'ai le sang de Dieu, de Jésus sur moi. Je refuse de t'approcher en tant que pécheur. Je t'approche en tant que racheté, en tant que disciple de Christ. Est-ce que vous voyez que la démarche est totalement différente ? Et ensuite, dernier point, il nous dit, « Et le corps lavé d'une eau pure, en d'autres termes, sachant que ton humanité n'est plus un problème. » L'humanité, on a, par Christ, on a récupéré l'humanité que Adam avait. Et c'est avec cette humanité, l'humanité n'est plus un problème pour approcher Dieu. Quand le cœur a été recréé. Et mes amis, c'est de cette manière qu'on doit approcher Dieu, qu'un disciple a le privilège d'accéder à Dieu, en s'approchant avec le cœur, dans la foi, pas dans la crainte. Nulle part on voit qu'on devrait venir trembler devant notre Père, nulle part. Trouvez-moi où il nous dit qu'il faut trembler, qu'il faut avoir peur. Non, vous trouvez que l'invitation qui est donnée comporte quelque peur? Absolument pas. Approchons avec le cœur dans la foi sans porter la conscience du péché. C'est-à-dire la conscience du péché, c'est quoi? Sans sentiment de honte, de culpabilité ou d'infériorité. Dieu nous dit approche, mais laisse derrière cette infériorité. Laisse derrière cette culpabilité, cette honte. Laisse-la derrière, mets ça sur une chaise et quand tu viens, enlève ce costume et quand tu viens, viens comme quelqu'un qui a été racheté par le sang et qui est totalement accepté par moi. Oh oh, mes amis, et honnêtement, c'est une manière de prier, c'est une manière d'aller dans la présence de Dieu que chaque chrétien devrait expérimenter, mais aussi quand les groupes de prière prient. C'est pas juste moi, mon petit. Non, ça veut dire que, vous savez pourquoi ce matin, la louange était si pleine de Dieu, sa présence était si forte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est approché avec les regards sur lui. On a su qu'on était racheté, on a su qu'on avait une entrée, on a su, et de cette position, on a juste aimé Dieu. Et est-ce que ce n'est pas différent de ce que beaucoup expérimentent? Ou peut-être de ce que même vous expérimentez, de ce que j'ai expérimenté. Vous savez, il y a un moment dans ma vie où la seule manière d'apporter Dieu, c'était de pleurer devant lui. Grosso modo, je passais mon temps à lui parler de mes malheurs. Mais depuis que j'ai compris qui il est, qui je suis, combien je suis attendue, combien je suis aimée, combien je suis restaurée en lui, oh là là, notre conversation a bien changé. Malheureusement, beaucoup de gens sont encore à essayer de dissimuler leur cœur, de trembler devant lui, ne sont sûrs de rien devant lui, ne sont même pas sûrs de son amour. Et l'approche, au pire comme un pauvre pécheur, au mieux avec la conscience de leurs erreurs et de leur ingratitude et de leur incapacité et de leur insuffisance. Est-ce que vous voyez qu'on est volé si on approche Dieu de cette manière? On est totalement volé. Nos prières, si nos prières sont réellement des temps où on connecte avec Dieu, où on est empreint de la confiance que l'on a en lui, et si on se présente devant lui avec cette identité nouvelle qu'il nous a donnée, alors les temps de prière que l'on aura seront exactement ce que devrait être un temps de prière selon les Écritures. Qu'est-ce que dit? On va voir vite fait parce qu'il est quoi? Ouh là là! Sous la conduite du Saint-Esprit, dans notre cœur, ces temps de prière devraient manifester tout style de prière. C'est-à-dire que quoi? Les temps de prière où je m'approcherai de Dieu, où je parlerai avec Dieu, seront peut-être des temps où je vais me confier à lui. Matthieu 6,6 nous dit, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. » C'est-à-dire quoi? La pièce retirée? Honnêtement, c'est pas ça. C'est ça la pièce retirée, la plus retirée. On peut transposer. « Ferrouille la porte, c'est-à-dire reste seul avec lui. » Et adresse ta prière à ton Père. C'est-à-dire, dis les choses telles qu'elles sont. La prière d'un disciple devrait être juste, je parle à mon Père et je lui dis les choses telles qu'elles sont, clair, net, précis, sans cinéma, sans langage religieux. Un autre, qu'est-ce que seront nos temps de prière si on approche de cette manière Dieu? Eh bien, ça sera un temps où on pourra être aussi fortifié. Luc 21, 36 nous dit quoi? Luc 21, 36 nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Vous savez pourquoi tant de gens tombent dans la tentation? Parce qu'ils ne prennent pas ces temps de prière. Ou s'ils les prennent, ils les prennent de façon tout à fait religieuse. Et ils sortent de cet endroit de prière sans être forts en Dieu. Vous savez, si vous êtes affligé, si vous êtes abattu, au lieu de fuir, au lieu d'aller parler à tous vos amis, parlez-en à Dieu. Parce que lui seul, écoutez bien, a la possibilité de fortifier réellement un cœur. Seule sa vérité a la possibilité de vous rendre libre. Qu'est-ce que devrait être un temps de prière? Eh bien, ça devrait aussi un temps où Dieu va nous parler, va nous donner des directions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Actes 13, 1 à 1, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc c'est un temps de prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit clairement dans les Écritures qu'un temps de prière est un temps où Dieu va parler. Un temps où Dieu va donner des directions. Où? Sur un mur? Non. Où? Audiblement? Non. Dans notre cœur. Parce qu'on connaît. C'est ça la route qui nous amène à Dieu. C'est notre cœur. Autre chose, eh bien, un temps de prière pour un disciple devrait être un temps où il expose tout simplement ses besoins et où ses besoins seront répondus. Hébreux 4, 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver. » On trouve quand on va devant Dieu. Grâce pour être quoi? Eh bien, pour rester au même endroit que tu es, tu restes avec tes problèmes. D'accord, tu as trouvé la miséricorde, tu as trouvé la grâce, mais ton problème, il reste quand même sur le côté. Non, la Bible nous dit, tu vas devant le Père, tu lui parles, tu es vrai devant lui, tu lui dis si tu as besoin de quelque chose, et là, tu vas obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouré. Il y a autre chose. Qu'est-ce que devrait être un temps de prière pour un chrétien qui prie de son cœur à Dieu? Eh bien, ce sera peut-être un moment où on exercera notre autorité. Et là, je fais référence à Éphésiens 6, 12. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je descends au verset, et après il décrit toutes les armes du chrétien, et je descends au verset 18 qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » C'est-à-dire que dans un moment de prière, peut-être que vous allez prier et vous allez réaliser que vous êtes en dépression. Et le Saint-Esprit va dire « Prends autorité contre ça. » Tu dis « Stop !» Cet esprit de dépression, dans le nom de Jésus, je viens contre. Mais voyez, c'est dans la présence de Dieu que toutes ces choses se passent. Autre chose qui se passe quand un disciple prie, tel que les Écritures prévoient qu'il prie, eh bien, il priera la volonté, pour que la volonté de son Père s'accomplisse sur la terre. Ça sera peut-être concernant votre vie, ça sera peut-être concernant votre ville, peut-être concernant une amie, peut-être. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que Matthieu 6, 9 nous dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La Bible nous dit, les disciples, les chrétiens qui prient, devraient prier pour ce que les plans que Dieu a, les bons plan que Dieu a, soit manifesté sur la terre. Et enfin, Une autre chose qui se passera si vous venez dans la présence de Dieu avec le cœur, avec votre nouvelle identité, avec la hardiesse de savoir que vous êtes accepté, eh bien, Luc 22, 31 nous dit, et c'était Simon, c'était Jésus qui parlait à Simon, et Jésus lui dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On voit clairement, et je pourrais vous montrer d'autres écritures, on voit clairement que parce que Jésus ici a prié pour Pierre, la destinée de Pierre a été changée. Là où Pierre aurait dû être pris dans les ruses du diable, le diable n'a pas eu le dernier mot. Et ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'était pas allé dans la présence de son Père, si Jésus n'avait pas connecté son cœur à Dieu, et si dans cette connexion, il n'avait pas commencé à prier pour ceux qui lui venaient à cœur. Qu'est-ce qui se serait passé pour Pierre? Mes amis, on a un privilège, on a un accès. Vous savez, c'est assez intéressant que la Bible dit que l'on a accès. Quand on parle d'un accès, on parle d'un privilège. Et honnêtement, c'est trop bête de passer à côté. Moi, si j'ai accès, je ne sais pas moi, au Country Club de Monaco, franchement, je suis une gourde de ne pas y aller. Ça ne me sert à rien. Combien de gens ont accès de par le sang de l'agneau à Jésus-Christ, au Père, et ne l'empruntent jamais? Et c'est ça que je vous encourageais à faire. Mes amis, la prière d'un disciple est tout sauf un rituel, sauf une formule, sauf quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose que l'on vit, quelque chose qui sort de notre cœur. Et dans ces temps, si on le fait tel que l'Écriture nous le dit, on va le faire avec assurance et avec liberté. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que je vous encourage. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Et bon nombre d'entre vous savez combien le Seigneur nous encourage à prier, nous dit prier sans cesse. Vous savez, nulle part il est dit que pour prier, il faut être à genoux, que pour prier, il faut être pas selon la Nouvelle Alliance, pas depuis que Jésus est venu. La seule référence que Dieu fait, c'est notre cœur. On prie en étant dans notre cœur, de notre cœur. Ça peut être dans le bus, ça peut être à l'église, ça peut être quand je suis seule à la maison, ça peut être quand le Saint-Esprit me parle, quand je connecte avec lui, Dieu va me parler. Dieu vous parlera. Amen. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te remercier pour cet accès qui est si extraordinaire parce que nous n'avons pas à payer, nous n'avons pas à faire quelque chose. C'est Jésus-Christ qui l'a fait pour moi. Combien je veux te remercier, Seigneur, parce qu'à un moment, je ne savais pas comment accéder à toi. Oh, mais merci, Seigneur, parce que maintenant, je peux me présenter devant ta face, libre, libre d'expérimenter ton amour, libre de croire que ton amour est suffisant pour que je puisse parler dans ta présence. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, chacun, Seigneur, qui veut marcher dans tes pas, puisse expérimenter cette liberté, puisse expérimenter, puisse être ferme, puisse être rassuré de cet amour et puisse expérimenter la prière tel que tu l'as pensé, tel que tu l'as voulu, Père. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen.